Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. C'est désormais un rendez-vous incontournable, un événement attendu. Chaque deuxième mercredi de juin, la remise solennelle sous la coupole des Grands Prix des fondations abritées par l'Institut de France. Pour nous présenter cette cérémonie, j'ai le plaisir d'accueillir en notre studio le chancelier de l'Institut de France, M. Gabriel De Breuil, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques. M. De Breuil, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous présenter cette cérémonie. Comment se déroule-t-elle cette année ?
Alors, c'est intéressant de voir qu'une institution nourrie de ses traditions, comme l'Académie et l'Institut de France, se renouvelle en créant depuis quelques années seulement une nouvelle tradition, celle de la cérémonie solennelle de remise des Grands Prix sous la coupole. C'est une cérémonie qui n'est pas tout à fait académique, puisqu'elle consiste à accueillir les mécènes qui ont abrité les fondations à l'Institut de France et les lauréats qui ont été choisis par les jurys pour recevoir les Grands Prix cette année. Et donc, c'est une manifestation plus ouverte, plus large, peut-être plus vivante qu'une série de discours académiques et qui donne un regard chaque année neuf et en même temps fondamental sur les grandes recherches scientifiques, de biologie, mais dans tous les domaines, des sciences de la nature, de la géographie, du vivant et également dans les domaines culturels et littéraires. Cette cérémonie se renouvelle en ce sens que pour présenter les lauréats, cette année comme l'année dernière, mais mieux que l'année dernière, il y aura une série de documents vidéo, d'audiovisuels, disons-le, projetés sur les écrans qui sont placés sous la coupole, où l'on a interrogé le lauréat dans son laboratoire, avec son équipe, pour qu'il explique quel est l'objet de sa recherche. Et ce mode de présentation est beaucoup plus intéressant et vivant, et en même temps permet de dire plus de choses dans un court espace de temps, car un audiovisuel de 3 ou 4 minutes dans le laboratoire du savant, du chercheur, en dit souvent plus qu'un petit discours.
Vous-même, je crois que vous allez intervenir en ouverture. Sur quel thème allez-vous parler ?
Alors, c'est la tradition qui s'est créée tout naturellement. C'est que le chancelier de l'Institut qui organise cette cérémonie accueille mécènes, lauréats publics, académiciens, membres des jurys de concours, par une intervention. L'année dernière, j'avais intitulé mon intervention « Le retour de la philanthropie ». Avec un phénomène bien clair qui est que la philanthropie qui est née dans la vieille Europe, et en particulier en France au siècle des Lumières, c'est un mot du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, la philanthropie.
Joli mot d'ailleurs.
Avait, un très joli mot. Avait émigré dans le Nouveau Monde, où elle a pris racine fortement et s'est développée magnifiquement, puis nous revient d'outre-Atlantique pour une nouvelle philanthropie qui plonge de nouvelles racines en Europe et très solide, très forte. Il y a un développement de la philanthropie sur le plan général. Alors cette année, j'ai voulu souligner un autre aspect de cette même évolution que j'appelle le métier de mécène. C'est-à-dire que le mécène n'est plus ce personnage très riche, quelquefois oisif, proche en tout cas des hautes sphères de la société, et qui consacre sa fortune à encourager les arts, les lettres et les sciences de manière un peu dégagée, généreuse d'ailleurs, et éclairée. Ce phénomène connaît une mue, une transformation de nos jours, en ce sens que les mécènes sont plus nombreux, la vocation de mécène existe, n'est pas près de s'éteindre, elle se développe. Et en même temps, l'activité du mécène se professionnalise, c'est-à-dire les instruments du mécénat. La démarche elle-même de recherche, de sélection des projets, d'évaluation des différentes candidatures, puis de suivi de l'action de celui qui a été choisi l'année suivante et l'année dans le temps, suppose le rassemblement de moyens, d'informations, de données, de démarches, de visites, de voyages même, un contact entre le mécène et celui qui l'encourage.
C'est plus complexe, alors, ça devient plus compliqué.
Ça devient plus complexe. Ça devient même, d'une certaine manière, plus professionnel et même plus financier. Il y a des instruments financiers du mécénat. Il y a des évaluations financières du mécénat. Et voilà l'évolution que j'appelle le métier de mécène. Mais c'est aussitôt pour me poser la question, n'y a-t-il pas là un danger ? Est-ce que le mécénat, qui était une activité désintéressée, n'est pas en train de s'engluer
dans la technique,
dans le métier ? Eh bien, nous sommes bien placés à l'Institut de France pour répondre non. La démarche de mécène continue à être ce qu'elle doit être, c'est-à-dire désintéressée, un mouvement du cœur et de l'esprit en face de situations qui doivent être améliorées, et que les mécanismes généraux de la société, de l'État en particulier, n'améliorent pas suffisamment. L'État ne peut pas tout faire, et donc le mécène est celui qui détecte un certain nombre de besoins, de lacunes, et qui veut contribuer à les combler. Et je dois dire que la rencontre entre le mécène et l'académicien, c'est-à-dire l'intervention de l'Institut de France dans cette démarche, conserve tout son intérêt, toute sa richesse.
Justement, j'allais vous demander, quel est le motif principal qui conduit les fondateurs à choisir d'être abrités par l'Institut de France ? Autrement dit, qu'apporte l'Institut de France aux personnes qui veulent créer une fondation ?
Alors, la valeur ajoutée, appelons-la comme ça,
oui,
puisqu'on
ben
est
voilà,
dans les termes financiers, n'est-ce pas ? La valeur ajoutée de l'Institut de France, elle est plusieurs. D'abord, un gage de pérennité, ce qui existe dans la démarche bien naturel, bien explicable, des fondateurs, des mécènes. Deuxièmement, l'indépendance, ce qui est un élément essentiel. L'Institut de France apporte une garantie d'indépendance à l'égard de tous, à l'égard du pouvoir, de l'administration, des bureaux, des ministères, mais à l'égard aussi des puissances économiques, bancaires, financières, etc. Et cette indépendance est essentielle. Et puis, alors, le dernier point tout à fait important, c'est l'expertise. C'est-à-dire que s'il y a un métier de mécène, ce métier suppose une vraie formation scientifique, un spectre de compétences, très large d'ailleurs, puisqu'on va des mathématiques pures au domaine littéraire, artistique et humanitaire. Donc le spectre scientifique et culturel est immense. Et l'Institut de France est en mesure d'apporter dans chaque champ des compétences variées, généralement de grande qualité, et que le fondateur apprécie énormément, car sa démarche peut s'appuyer sur une garantie de qualité et de connaissance. Ajoutons aussi, s'il le faut, peut-être à la fin, que la démarche de l'Institut de France possède un certain prestige, auquel les fondateurs ne sont pas insensibles.
Ils ont bien raison. Justement, l'Institut de France, rappelons en tout cas pour nos nouveaux auditeurs qu'il a été créé en 1795 et qu'il abrite les 5 académies, Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts et Académie des sciences morales et politiques. Il répond, en faisant ce mécénat dont vous parlez, monsieur de Breuil, à la mission qui lui a été confiée. Pouvez-vous nous rappeler cette mission, globalement ?
Alors, globalement, elle est résumée en une formule qui soulève autant de questions que de mots, n'est-ce pas ? Bien entendu, le perfectionnement et le rayonnement des sciences, des lettres et des arts. Première question immédiate de nos confrères de l'Académie des Beaux-Arts, le perfectionnement des arts, vous y croyez vraiment ? Est-ce un objectif ? Voilà, mais la formule est ancienne comme l'Institut, et en plus elle ne dit pas tout, en ce sens que la transmission du savoir et la formation n'est pas incluse dans cette formule, mais enfin on peut l'y faire entrer, et la démarche de mécénat est accessoire, mais consubstantiel, aux autres missions de l'Institut de France. Depuis l'origine, depuis les académies royales fondées au XVIIe siècle, il y a toujours eu une mission de bienveillance. N'employons plus le terme de charité, mais d'action humanitaire. Les prix Montyon du XVIIe siècle ont eu cet objectif. Et cet objectif n'a fait que se développé depuis. Et donc, la mission de mécénat fait partie de celle de l'Institut. C'est peut-être de simples prix pour des livres ou pour des œuvres, des compositions musicales, des peintures et des arts plastiques, etc. Mais ça peut être aussi des contributions importantes dans les domaines scientifiques, de recherche et humanitaires. C'était des prix, c'est devenu presque des fondations à soi seul, tellement les prix sont devenus importants.
Et nombreux, très nombreux.
Et nombreux
et
importants.
Je ne sais pas si on les a comptés un jour, mais non, je crois qu'ils sont très nombreux.
Ils sont très nombreux. D'ailleurs, il y a une vie des prix. Certains se regroupent.
Oui.
Certains se développent. Et même au sein de la même fondation, les fondateurs créent un prix nouveau, car ça correspond à leur volonté, leur démarche. C'est le cas de la fondation Mérieux, qui a voulu créer un prix Rodolphe Mérieux l'année dernière. Et donc, voilà, il y a une vie des prix. Ne comptons pas les prix littéraires, simplement pour encourager une œuvre. Là, il y en a des centaines et des centaines. C'est bien naturel, d'ailleurs. Mais les grands prix que nous allons remettre sous la coupole de l'Institut sont au nombre de entre 10 et 15. Et en plus, il y a une série de fondations qui mènent une action tout à fait remarquable et qui doit être signalée, qui sont au nombre de 30 ou 50, n'est-ce pas ? Donc l'ensemble fait 50 fondations qui accordent des encouragements sous toutes les formes, des prix, et parmi ceux-ci, 12 à 15 grands prix. Mais alors parlons des grands prix, si vous le voulez.
Je le veux bien, mais auparavant, je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite avec M. Gabriel De Breuil, chancelier de l'Institut de France.
Écoutez l'historienne Hélène Carrère d'Ancos raconter Nicolas II, le fils de Nicolas Ier, qui reste associé au printemps de la Russie. Écoutez également Hélène Carrère d'Ancos expliquer l'histoire de l'Académie française en tant que secrétaire perpétuel de cette Académie. Écoutez enfin son discours sous la coupole consacré à Pierre Corneille. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Nous retrouvons dans notre studio de Canal Académie le chancelier de l'Institut de France, Gabriel De Breuil, pour nous présenter justement ces grands prix des fondations abritées par l'Institut de France. Ces grands prix sont remis lors de la cérémonie sous la coupole par des académiciens, choisis, je suppose, en fonction de leurs compétences particulières. Quelles sont les caractéristiques de ces grands prix ? Quels sont-ils d'abord ? On peut peut-être les énumérer. Et en quoi sont-ils non seulement des récompenses, mais surtout des soutiens ?
Les grands prix dont il s'agit aujourd'hui sont d'une autre nature que l'ensemble des récompenses aux concours qui ont toujours existé dans les académies. Car si j'essaie de caractériser, c'est que le Grand Prix est en lui-même une fondation, par son importance, par le champ de recherche, la discipline qui est choisie, et par le sérieux de la sélection, grâce à un jury qui n'est pas uniquement français ni de l'Institut, mais qui associe bien souvent des experts étrangers. Alors je crois que l'intéressant, c'est en effet d'énumérer les prix qui vont être distribués. Il y a le prix Christophe Mérieux, le plus récent, car la fondation Mérieux existe depuis longtemps, c'est une très vaste et puissante fondation. Mais le prix Christophe Mérieux a été créé récemment par les fondateurs, la famille Mérieux, à la suite d'un deuil familial qu'ils ont voulu
honorer leur fils, honorer la mémoire. Oui.
La mémoire d'un fils disparu. En créant un prix Christophe Mérieux d'un montant de 400 000 euros. Et dans le domaine des recherches de biologie et de lutte contre les maladies infectieuses. Voilà, cette année, le prix ira à un directeur de recherche de laboratoire au Gabon, car une des spécialités de ce prix Rodolphe Mérieux, c'est de récompenser un chercheur qui opère sur les lieux mêmes des maladies infectieuses, c'est-à-dire dans les pays en voie de développement. Et ceci en hommage à la mémoire de Christophe Mérieux, qui était médecin, docteur, et qui était, lui, un familier des actions sur le terrain, dans des pays en voie de développement. C'est une belle démarche, c'est un grand prix, et je dois dire que le laboratoire qui reçoit le prix Christophe Mérieux, 400 000 euros, a son existence, surtout en Afrique, vous imaginez, au Gabon, son existence modifiée.
Donc c'est un laboratoire qui est dirigé par Éric Leroy, et pour des maladies virales émergentes, infectieuses, et je crois qu'il va faire progresser largement la recherche. Et d'ailleurs, l'objet de ces grands prix, ce n'est pas de récompenser une recherche, mais plutôt de soutenir, n'est-ce pas ?
C'est ça, c'est de la caractéristique, vous avez raison de le dire, c'est qu'il y a des prix qui récompensent. Mais les prix scientifiques en particulier sont des prix qui encouragent, qui donnent un pouvoir de faire, de continuer de faire, de chercher et de découvrir. Et alors, le laboratoire récompensé cette année a mis au point des phénomènes extrêmement importants pour lutter contre les maladies virales émergentes dans le laboratoire de recherche médicale de Franceville au Gabon. Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur les maladies virales émergentes, mais la cérémonie a précisément pour intérêt de faire plonger le public dans un bref laps de temps dans des connaissances nouvelles qui sont tout à fait passionnante.
Voilà pour le prix Christophe Mérieux. Maintenant, je crois qu'il y a un prix de la Fondation Louis D. Et d'ailleurs, il n'y en a pas un, mais deux, comme vous allez sans doute nous l'expliquer.
La Fondation Louis D. illustre ce caractère essentiel de la démarche du mécène, qui est la discrétion. Essentiel, pas tous, mais il va avec la démarche de mécène de ne pas chercher à se mettre en avant et de rester discret. Ainsi, cette très importante fondation s'appelle la Fondation Louis D. Et par la volonté des fondateurs, n'est pas D, c'est grand D, point. Et les fondateurs ne souhaitent pas qu'on dévoile leur nom. C'est une fondation magnifique qui a créé deux grands prix chaque année, l'un dans le domaine scientifique, l'autre alternativement, une année sur l'autre, dans le domaine culturel ou dans le domaine humanitaire.
Et cette année, il sera ?
Alors, cette année, il y a d'abord le Grand Prix scientifique.
Comme tous les ans. Quel en est le montant ?
Alors, je voulais marquer un certain temps d'arrêt avant de dire le montant de chacun des deux prix de la Fondation Louis D. distribué annuellement, ils sont chacun d'un montant de 750 000 euros.
C'est absolument énorme, c'est une somme très élevée.
C'est une somme très importante. Peut-on parler d'un prix ? En réalité, il faut parler d'une fondation faite par une démarche annuelle. Et le montant place ce prix à un niveau équivalent à celui du fameux prix Nobel, qui a cette grande réputation. Mais la réputation du prix Louis D. n'est plus à faire, elle est bien connue dans les milieux scientifiques. Le prix scientifique est distribué à la suite d'une démarche internationale associant 10 académies des sciences étrangères, de la Russie aux États-Unis, à la Chine, à l'Angleterre, etc. Et un processus de sélection qui prend à peu près toute l'année aboutit au choix du lauréat. Et cette année, le champ d'investigation, le domaine, la discipline qui était en compétition était les nouveaux acquis en biologie des plantes et amélioration des ressources végétales et vivrières. Domaine tout à fait passionnant, actuel, même d'avenir.
Et utile, je suppose.
On ne connaît pas totalement la biologie des plantes et l'amélioration des ressources végétales et vivrières. Les deux vont de pair, évidemment. La prospection a été si bien faite qu'elle a abouti à des listes de plus en plus courtes. Et à la fin, le jury n'a pas pu se départager entre deux laboratoires aussi intéressants et importants l'un que l'autre, et donc a décidé, exceptionnellement, de diviser le prix en deux et de l'attribuer à M. Olivier Voinet, qui est un directeur de recherche au CNRS et le directeur de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg, pour ses travaux sur les mécanismes essentiels qui interviennent dans la régulation de l'immunité innée chez les végétaux et les animaux, et à M. Hervé Vaucheray, chercheur en biologie cellulaire à l'INRA de Versailles, pour ses études sur le rôle des ARNs dans la détermination cellulaire en cours du développement et dans le maintien de l'intégrité du génome. Expliquer en 4 minutes la recherche de ces deux éminents chercheurs, très éminents chercheurs, entre lesquels un jury international, puis finalement un jury de membres de l'Académie des sciences, n'arrive pas à se départager à quelque chose de tout à fait fascinant.
C'est un défi. Alors, je dois dire que Canal Académie n'a pas tout à fait répondu à ce défi, puisque Canal Académie a interviewé chacun de ces deux lauréats au moins en 45 minutes, pour qu'ils expliquent plus à fond leurs recherches.
Mais ça devait être passionnant.
Alors, le prix humanitaire Louis D.
Alors, le prix humanitaire Louis D, cette année, c'était le prix humanitaire. L'année dernière, c'était le prix culturel. Et le prix humanitaire Louis D va être décerné à une action tout à fait remarquable et de très vaste ampleur. C'est le projet de maison relais de la rue de la Chine à Paris qui est créé et animé par la fondation Les Petits Frères des Pauvres et destiné à loger, c'est une formule très intéressante et qui comble une lacune de tout notre système de protection. Et c'est donc un prototype, n'est-ce pas, qui est destiné à faire école. La maison relais rue de la Chine est destinée à abriter, à accueillir temporairement des personnes de plus de 50 ans, sans domicile, afin de leur permettre d'achever leur réinsertion dans la société et réinsertion par le travail. Et donc, il y a un accompagnement de la maison de la rue de la Chine pour réinsérer progressivement les personnes recueillies dans un circuit normal, social et de travail. C'est une démarche tout à fait intéressante qui manque à la panoplie de l'intervention sociale et qui mérite grandement le prix Louis D.
Comme quoi les associations ont quelquefois des idées créatrices que l'État reprend peut-être après, quand elles
sont bonnes. Absolument. Ce n'est pas la première fois. C'est d'ailleurs, au fond, la spécificité de ce prix humanitaire Louis D, c'est de détecter des formules, des organismes qui comblent des lacunes dans le domaine de l'intervention sociale et humanitaire. C'est très utile comme intervention et l'Institut de France peut le faire grâce à cette démarche qui l'accompagne.
Troisième grand prix de l'Institut de France et des fondations qui l'abritent, le prix de la fondation Le Foulon de la Lande.
Très belle fondation également, qui décerne chaque année et qui fait bien d'autres choses, mais notamment des bourses, des encouragements à des laboratoires, mais qui décerne chaque année un grand prix scientifique de 500 000 euros dans le domaine de la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Et cette année, ce prix est remis à un professeur américain, le professeur Eric Olson, qui est chef du département de biologie moléculaire à l'Université de Texas South à Dallas. Et pour ses travaux sur les mécanismes des gènes de régulation responsables du développement du cœur et qui ouvre de nouvelles cibles thérapeutiques dans les maladies du cœur. Et c'est le professeur Alain Carpentier, qui est cette année vice-président de l'Académie des sciences et cardiologue bien connu, qui présentera le lauréat et remettra le prix.
Après cette fondation, le Foulon de la Lande, il y a encore une fondation qui est Énergie. On ne s'attend pas à ce qu'elle soit ici, mais effectivement, elle a ce rôle aussi de mécène. Dans quel domaine ?
Alors, la Fondation Énergie est une belle fondation, filiale en quelque sorte du groupe bien connu, mais filiale très sérieuse et très scientifique. Et elle décerne chaque année un prix de 100 000 euros sur le thème de la recherche contre la douleur et les traitements de la douleur. Et elle récompense cette année M. Luis Garcia Larrea, qui est directeur de recherche à l'INSERM et directeur de l'unité Intégration centrale de la douleur à Lyon, pour ses travaux sur le diagnostic des douleurs neuropathiques et sur les mécanismes de la neurostimulation.
Qui est français, bien que son nom
français,
espagnol, bien sûr d'origine espagnole, mais qui est absolument français.
Et alors ce prix est également divisé en deux, et c'est un chercheur anglais, John Wood, du département de neurologie biomoléculaire de l'Université College de Londres, qui partagera le prix avec M. Garcia Larrea.
Et je crois qu'ils nous expliqueront que si c'est terrible, en effet, de souffrir, c'est aussi dangereux de ne pas souffrir. Mmh. Car si la douleur ne manifeste pas le problème, c'est aussi un grand danger pour le patient.
Donc, ce alors, sera le prix leur sera remis par M. Michel Lasdunski, membre de l'Académie des sciences, et qui est un chercheur spécialisé dans, un biologiste, mais spécialisé dans ces domaines de la douleur. Et cette année, nous avons voulu que ce ne soit pas nécessairement le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences ou le président du jury qui remette le prix, mais l'académicien le plus spécialisé dans le domaine récompensé.
Oui, certainement, c'est une très bonne idée. Reste à évoquer maintenant une fondation qui, je crois, vous tient largement à cœur, c'est la fondation Simone et Fino Del Luca.
Magnifique fondation, polyvalente, qui développe une action dans beaucoup de domaines artistiques, de recherche scientifique. C'est Madame Simone Del Luca qui a créé cette fondation et qui en a été la présidente pendant des années. Elle était très compétente en matière de recherche médicale. Elle connaissait très bien le milieu et la plupart des laboratoires et elle accordait une grande importance à cela. Et donc, elle a créé deux grands prix que nous poursuivons et même augmentons chaque année depuis la mort de Madame Del Luca. Cette fondation est devenue une fondation abritée à l'Institut que j'ai l'honneur de présider et nous sommes fidèles à ses volontés en continuant à décerner tout d'abord le grand prix scientifique qui est lui d'un montant de 300 000 euros sur le thème cette année choisi par le jury. Le thème c'est les mathématiques et leurs applications. Et là, on pénètre dans un domaine extraordinaire. La définition détaillée du domaine de compétition est elle-même difficilement compréhensible. Quant à l'énoncé des travaux des lauréats, c'est un exercice de vocabulaire, de création linguistique et même poétique. Je dis, oui, poétique sûrement, qui est tout à fait fascinant. Alors, le lauréat sera le professeur Michael Harris, enseignant, chercheur de mathématiques à l'Université de Paris 7, qui est français et qui est un membre senior de l'Institut universitaire de France.
Et un institut fort intéressant d'ailleurs, qui regroupe, qui fédère des grandes universités. J'ai découvert cela en lisant le document.
Qui regroupe une élite de chercheurs et de professeurs. Tout à fait intéressant en effet. Et alors, son thème de travaux de recherche, c'est les représentations automorphes et représentation galoisienne. Galois, c'est le nom d'un grand mathématicien célèbre et disparu trop tôt. Au-delà de cela, il faut se reporter aux notices et essayer de les comprendre.
Voilà, qui seront sans doute mises sur le site de l'Institut de France.
Voilà.
Et la Fondation Del Duca, encore un dernier prix.
Alors, elle décerne chaque année le Grand Prix mondial qui est décerné dans le domaine de la culture et de la littérature. Et cette année, le jury, présidé par Mme Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, le prix a été décerné à l'écrivain Milan Kundera, écrivain romancier d'origine tchèque et écrivant en français et en tchèque et même dans d'autres langues, et qui a été naturalisé français depuis déjà pas mal d'années, et qui nous fait l'honneur de venir assister à cette séance.
C'est
lui
assez rare,
qui
je crois, oui.
Répugne à toute apparition publique, à toute prise de son image, il ne veut pas être photographié, et à toute interview de quelque nature que ce soit, si bien que je suis obligé de dire à ce micro qu'il sera bien difficile d'obtenir une déclaration ou un entretien de M. Milan Kundera. Il me l'a dit lui-même. Il veut bien venir, accepter le prix, mais il ne souhaite pas.
C'est déjà un progrès.
Voilà.
Monsieur le chancelier, en tout, quelle est la somme de ces prix qui seront distribués? C'est une somme, je crois, très importante.
C'est une somme très importante. De la mentionner n'a pas beaucoup de signification. Comme on l'a dit, puisque j'ai annoncé le montant de chaque prix, on voit que c'est plusieurs millions d'euros. Mais ce que je voudrais dire, puisque vous me posez la question, c'est que l'Institut de France, qui remet ces sommes, est fier de participer à cette très vaste démarche de mécénat. Il ne faudrait pas en conclure que l'Institut de France est riche. Il est fier, il est riche des intentions généreuses des mécènes qu'il redistribue, dont il accompagne la démarche, et qu'il redistribue, avec d'ailleurs un soin très scrupuleux de gestion et d'économie dans les sommes très importantes qui lui sont confiées, mais qui ne lui procure pas la richesse à lui, Institut de France, n'est-ce pas ? Donc, si nous allons, en une après-midi solennelle, distribuer plusieurs millions d'euros, eh bien, c'est pour la gloire et pour saluer cette démarche tout à fait essentielle dans notre société d'aujourd'hui et probablement de plus en plus importante, mais qui ne témoigne pas du tout d'une richesse de l'Institut. Il faut bien ne pas confondre les choses.
En tout cas, d'une richesse de la confiance et de l'excellence, c'est déjà une très grande chose. Je voudrais en terminant rappeler que Canal Académie retransmettra l'intégralité de cette cérémonie sur canalacademie.com, mais que l'on peut également consulter le site de l'Institut de France, www.institut-de-france.fr, dans la rubrique « Le site actualité » et les sites de chacune des académies pour obtenir plus de détails, à la fois sur les académiciens qui ont composé les jurys, dont on a peu parlé, mais c'est extrêmement important, et sur les lauréats, dans leur discipline et leur spécificité. Merci, monsieur le chancelier. J'allais vous dire à l'année prochaine, peut-être, pour présenter l'année suivante.
Merci à Canal Académie.